Chapitre 115. Sommet du mont Arara, Turquie. Cortès ne fit pas plus de 10 pas, juste assez pour disparaître de la vue d'Ahmet. Toutes les 10 secondes, il entendait son cri strident d'animal qu'un boucher sadique égorgerait. Ahmet était un milicien obéissant, mais combien de temps tiendrait-il avant de se transformer en bloc de glace ou de fuir? Les semelles de Cortès s'enfonçaient dans la glace molle, plus molle que sur le reste du glacier, exactement comme le rapport RS2A 2014 l'indiquait. Cette particularité était le résultat complexe du jeu de la réfraction solaire et de la microgéologie, parfaitement décelable par télédétection en calculant l'albédo de la neige. Rien à dire, Serval et Parella étaient des petits génies dans leur domaine. Fébrile, Cortès glissa la main dans son sac à dos pour en extraire son piolet d'escalade. Il consulta sa montre. 9 minutes. Il n'aurait jamais le temps. Il aurait déjà dû être sur le chemin du retour, rejoindre Ahmet, puis Béchir, puis le reste du groupe. Pourtant, il n'avait subitement plus froid. Son corps irradiait une chaleur rassurante, en osmose avec son esprit en fusion. Le piolet s'abattit une première fois dans la glace. Puis encore, encore, des dizaines de fois. Un coup de feu se fit entendre. 10 minutes. Cortès, halluciné, se jeta à terre. Il posa le piolet et dégagea de ses gants la glace brisée, tel un estivant hystérique creusant un château de sable. Il saisit à nouveau le piolet, accéléra le rythme. La sueur ruisselait sous son tissu thermolactyle. Il avait déjà creusé un trou 1 mètre. Il ne distinguait toujours que la neige immaculée. Seulement la neige, des milliers de tonnes de neige, sur des centaines de mètres carrés de glace. Il était un naufragé du désert, espérant échapper à la soif en creusant un puits de ses mains. Il poursuivait une chimère. Un nouveau tir. 11 minutes. Cortès changea son piolet de main. Surtout, ne pas douter. Il avait encore le temps, il n'avait pas froid. Cette fable des 15 minutes fatidiques au sommet avait été inventée par Parella et les guides de haute montagne kurdes pour détourner l'attention des touristes curieux. Quelle différence entre 15, 20 ou 30 minutes? Le piolet avait dégagé un cratère de plus de 2 mètres. Cortès, à genoux dans la cuvette, s'acharnait. La neige s'infiltrait dans ses gants et dans ses chaussures, l'inondant de givre et d'eau glacée. Il gagnait pourtant en précision, en rythme. Percer la glace, l'évacuer, percer à nouveau. Une détonation dans la brume ouatée. 12 minutes. Il était prêt, si près du but. Le brouillard se dissipait par petits voiles. Il apercevait indistinctement la silhouette d'Ahmet, sautillant sur place dans le vain espoir de se réchauffer. 13 minutes. Il n'allait pas abandonner maintenant. Impossible. Plutôt mourir gelé que de renoncer. Cortès perdait toute lucidité. Son corps entier disparaissait maintenant dans le trou, comme s'il creusait sa propre tombe. 16 minutes. L'étincelle jaune illumina la neige pendant une irréelle fraction de seconde. Un électrochoc secoua Cortès, tel un court-circuit se propageant entre chacun de ses neurones. Son piolet avait heurté quelque chose. Il frappa encore, cette fois avec la précaution d'un archéologue. Le métal au bout de sa main vibra, déclenchant un infime tintement. Le son de métaux qui s'entrechoquent. Rien à voir avec le bruit d'un piolet sur une roche. Cortès avait l'impression qu'on entendait le bruit jusqu'à l'Elbrouz. Perdant tout contrôle, il s'allongea dans la glace et il fouilla la neige avec une frénésie aveugle. Presque immédiatement, ses gants se refermèrent sur un objet rigide. Il tira, sans rencontrer de résistance. Avec une infinie précaution, il porta l'objet devant ses yeux. Cortès découvrit un cylindre rond et fin, d'une 10aine de centimètres de long et de 5 centimètres de diamètre. Fasciné, il se mit à genoux. Un examen rapide aurait pu laisser croire qu'il ne s'agissait que d'une pièce de métal, mais Cortès devait se rendre à l'évidence. L'objet était d'une matière qu'il n'avait jamais vue, une texture de pierre lisse, rappelant vaguement le marbre, mais d'une extrême légèreté, proche d'un plastique extraordinairement rigide. Au mépris de toute prudence, Cortès ôta un gant. Le cylindre était tiède. Un objet enfoui dans la glace depuis l'aube de l'humanité. Cortés, fébrile, en caressa de son pouce la surface. Apparemment lisse, elle était en réalité composée de milliers de micro-fissures, rappelant un texte gravé dans la pierre ou rédigé en braille, mais taillé avec une finesse qu'aucune main humaine n'aurait pu égaler. On aurait dit des milliers de croix, minuscules, chacune différente, elle-même divisée en d'autres milliers de croix, de simples points microscopiques qui semblaient se décliner à l'infini. Un langage inconnu? Des hiéroglyphes à décrypter? Cortés hésita. Le rapport RS2A 2014 mentionnait une forme ovale de 160 mètres de long sous la glace, à cet endroit. Tout était là, échoué sous ses pieds, à portée de piolet. La plus incroyable découverte de tous les temps. L'arche échouée de Noé. Il n'avait exhumé qu'une pièce d'un immense ensemble, l'équivalent de l'écrou d'un vaisseau. Le reste dormait dans la glace. Un coup de feu le tira de sa torpeur. 17 minutes. Cortés se leva en enfilant son gant. Il devait conserver la tête froide. Il avait bénéficié d'une chance inouïe. Il ne devait pas tout gâcher maintenant. À quoi servirait sa découverte s'il périssait stupidement au sommet du mont? La découverte d'une matière inconnue sur Terre. La découverte du premier objet façonné par une intelligence extraterrestre. La preuve absolue. Ce seul échantillon de la véritable arche suffirait à lui ouvrir toutes les portes, à monter une autre expédition, à revenir. Lui seul avait percé la vérité, s'était persuadé, toutes ces années, avait cru en son hypothèse folle jusqu'au bout. Il tenait la plus irréfutable des pièces à conviction. Il se retourna et vit dans la brume changeante la silhouette impatiente d'Ahmet qui lui faisait face. Ahmet observa Cortés s'approcher en écarquillant des yeux ahuris. Sa moustache et ses épais sourcils n'étaient plus que des blocs de givre. Le mercenaire interrogea son chef d'une voix à peine rassurée. « Tu as vu quelque chose ?» Cortés ne se donna pas la peine de répondre. « On rentre, » fit-il.
« On prévient les autres. Donne-moi ton arme. »
Ahmet comprit une seconde trop tard, lorsque l'arme changea de main. La balle lui déchira l'oreille et la moitié de la tempe. Cortés pesta. Ses doigts gelés l'avaient empêché d'assurer son tir. Ahmet gisait à ses pieds et se tordait de douleur. Cortés ne lui jeta pas un regard et, sans perdre une seconde, marcha vers le nord pour rejoindre Béchir, le second phare, dont il entendait maintenant les cris réguliers. Achever Ahmet aurait été la dernière des idioties. Béchir aurait entendu deux coups de feu de suite. Il était malin. Qui sait comment il aurait réagi? Ahmet allait crever à 5137 mètres d'altitude. Dans quelques minutes ou quelques heures, peu importe. Cortés retrouverait son cadavre intact dans les glaces lors de sa prochaine ascension. La silhouette de Béchir se dégageait déjà de la brume. Il vit venir vers lui Cortés, seul, une arme à la main. Son instinct de survie, décuplé par le froid, lui souffla la bonne stratégie. Ne poser aucune question. Lorsque Cortés s'approcha, Béchir consulta sa montre pour se donner une contenance. 22 minutes.
« Il faut y aller, »
souffla Cortés sans ralentir. Béchir lui emboîta le pas. 2 minutes plus tard, ils rejoignaient leurs camarades au sommet de l'Arara, frigorifiés, serrés les uns contre les autres comme des rats dans une cage. 2 hommes gisaient dans la neige, détachés de la cordée. 2 bergers kurdes, les yeux clos, le visage bleui. Cortés se souvint qu'au campement, il manquait 2 anoraks. Mauvaise intendance. Il avait grondé Zaytine en souriant, puis avait ordonné de faire tout de même monter les hommes avec des blousons de fortune. Il tenait à diviser les hommes valides du village. Qu'est-ce que cela changeait, au fond? Tous allaient mourir dans la journée. La voix de Parella traversa le silence.
« Il est temps, redescendons. »
Cortés n'ajouta pas un mot. Il se contenta de croiser le regard du professeur pour qu'il puisse y lire sa jubilation, pour qu'il soit persuadé, sans qu'aucune parole soit échangée, que lui, Cortés, le petit Kirill Ecker, l'orphelin azéri du Nakhitchevan, possédait entre ses mains la preuve ultime, qu'il détenait le destin de l'humanité au creux de sa paume.